Studio Tamani, voici nos informations en français.
La cinquième édition des opérations du recensement général des populations a démarré aujourd'hui dans le pays. Si certains Maliens affirment qu'ils ne sont pas au courant de ce recensement, les autorités rassurent que des efforts sont en cours pour intensifier la communication. Les radios de Ménaka protestent contre l'insécurité dont elles sont victimes. Depuis hier soir, elles ont entamé un silence radio. Elles demandent aux autorités de protéger les journalistes dans l'exercice de leur métier. Hajj 2022, le premier convoi des pèlerins maliens quitte Bamako ce lundi 20 juin 2022 pour le Royaume d'Arabie Saoudite, selon la maison du Hajj. Déjà, les pèlerins suivent une formation sur le bon déroulement du pèlerinage. Mesdames et messieurs, c'était là le sommaire de cette édition. Le développement dans un instant. Bonsoir à tous. À la présentation, Hamsitou Touré. Les opérations du recensement général de la population et de l'habitat ont débuté ce mercredi 15 juin 2022. Pour cette cinquième édition, plus de 36 000 agents recenseurs et chefs d'équipe sont mobilisés sur l'ensemble du territoire national. Les opérations vont durer 3 semaines. Pourtant, certains Maliens estiment qu'ils ne sont pas au courant de ce recensement, rendant difficile le travail des agents recenseurs en certains endroits. Les autorités rassurent que les efforts sont en cours pour intensifier la communication. Reportage signé Moussa Malessissoko.
À Bamako, nombreux sont ceux qui affirment ne pas être au courant de ce recensement de la population et de l'habitat, RGPH. Même ceux déjà au courant déplorent un déficit de communication autour de l'opération.
Oui, je suis au courant. Oui, à travers les médias.
Non, pas du tout. Je ne suis pas au courant.
En tout cas, c'est une très bonne chose. C'est vrai que toute la population doit se faire recenser. Et c'est aussi pour le bien du pays.
Bon, ils ne sont pas encore arrivés chez moi.
Bon, il faut d'abord que je sache c'est quelle sorte de recensement.
Avec la sécurité, ils arrivent à faire cela. Malheureusement, nous ne le sommes pas au courant.
Les activités de ce recensement sont coordonnées par l'Institut national de la statistique INSTAT. Ses responsables disent renforcer la communication pour mieux informer les populations sur la pertinence de cette enquête. Ils en appellent aussi à une franche collaboration des Maliens pour sa réussite. Issa Boiré, directeur général adjoint de l'INSTAT.
Nous avons réalisé des activités de communication, notamment à travers les journées de sensibilisation des partis politiques, de la société civile. Nous avons eu également à réunir les chefs de quartier, non seulement dans les régions, mais également dans le district de Bamako, pour partager l'information avec eux, qui nous aident. Il y a toujours des cas de réticence, mais on a toujours mis en place des dispositions pour faire en sorte que la population puisse adhérer. Il y a même les maires qu'on a associés dans la sensibilisation.
Le directeur général adjoint précise que le RGPS consiste à recenser les données des membres d'une famille. Il concerne aussi certains biens et caractéristiques de la maison.
À peine commencé, certains agents recenseurs se seraient retirés de ces opérations. Les responsables de l'Institut national de la statistique, INSTAT, confirment des cas d'abandon de certains agents recenseurs. Mais ils rassurent que des mesures ont été prises afin que ces désistements n'entache pas le déroulement du RGPH. Issa Boiré est le directeur général adjoint de l'Institut national de la statistique INSTAT. Il est au micro de Moussa Malessissoko.
En préparant le dénombrement, en amont, il faut former les 36 000 agents. Ils ont suivi une formation de 18 jours environ. Maintenant, dans ce lot, certains pensaient que je viens, quand on me forme, je m'arrête là. Je prends l'argent de la formation, le reste là, ça m'aide. Il y a d'autres en cours de formation, comme la plupart c'est des jeunes diplômés, en cours de formation, ils ont eu l'opportunité d'avoir un emploi sûr, un emploi pérenne. Ils aussi peuvent désister. Voilà entre autres pratiquement les cas de désistement ou les cas d'abandon qu'on peut retenir sérieusement. Dans la planification, nous avions conçu à peu près 10% comme marge pour prévoir un peu le désistement. Donc à chaque fois qu'il y a un abandon, on regarde à ces 10% ce qu'on peut prendre pour l'utiliser.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le Mali se désengage du G5 Sahel. Le chef d'état-major général des armées du Mali a annoncé ce mardi 14 juin 2022 la fin de l'engagement des personnels maliens dans tous les organes et instances du G5 Sahel à compter du 30 juin 2022. C'est ce qui ressort d'une correspondance adressée par le général de division Oumar Diarra au commandant de la force conjointe du G5 Sahel. Dans le texte, l'officier malien précise que toutes les dispositions sont en cours pour rapatrier les personnels déployés au sein des fuseaux ouest et centre de la force antiterroriste. L'état-major français a annoncé ce mercredi la capture d'Oumeya Ould Al-Bakaï, un haut responsable de l'État islamique au Grand Sahara EIGS. Selon un communiqué de l'état-major français, ce haut cadre de l'État islamique est le chef de l'EIGS pour le Gourma au Mali et pour l'Oudalan au nord du Burkina Faso. Il est également pressenti pour succéder à l'ancien émir Adnan Abou Walid Al-Sarawi, tué par les Français en août 2021, a précisé le document. Direction à présent Ménaka. Depuis ce mardi à 22h, les radios n'émettent pas, laissant des milliers de citoyens sans information. Le silence radio est consécutif à l'insécurité dans la région, dont les hommes de médias font les frais. Dans la nuit de lundi à mardi, deux d'entre eux sont rentrés difficilement dans leur famille. Le premier a été arrêté par les forces armées maliennes et le second par des individus armés prétextant être en patrouille. Ils ont tous été libérés quelques instants plus tard. À Ménaka, nous retrouvons Mohamed Ag Issa Feitane, notre correspondant.
Dans une déclaration rendue publique ce mardi, les radios protestent contre les traitements infligés à deux journalistes qui se rendaient dans leur famille ce lundi soir. Le premier a été arrêté par une patrouille FAMA qui, selon lui, n'a pas été tendre à son égard. Il précise qu'il a été verbalement violenté et a été forcé par des hommes à rentrer dans un des véhicules de la patrouille. Il a fallu l'intervention d'une autre personne pour qu'il puisse rentrer chez lui à 200 mètres de là. Le second journaliste a eu affaire à deux hommes prétendant aussi être d'une patrouille. Ils lui ont demandé de s'éloigner de la moto, ce qu'il fit, et continuer chez lui à pied. Le journaliste en question n'a subi aucune violence et l'engin a été récupéré le mardi matin à la gendarmerie. Dans leur déclaration, les radios rappellent également les différents braquages dont ont été victimes certains journalistes. Par ailleurs, elles invitent les responsables de la région Zichit à protéger, soutenir et à communiquer avec les journalistes dans leur travail de recherche quotidien de l'information. La reprise des programmes est prévue le vendredi à 9h. Mohamed Ag Issa Feitane, Ménaka, Studio Tamani.
Autre actualité du jour, les préparatifs des examens de fin d'année se poursuivent normalement dans les établissements publics et privés à Bamako et à l'intérieur du pays. Pour les autorités scolaires, les programmes d'enseignement sont épuisés à plus de 80%, une situation dont se réjouissent celles-ci malgré le contexte difficile. Les détails dans ce reportage de Khalifa Goïta.
À Gao, dans le nord du pays, les programmes scolaires sont exécutés à ce stade à hauteur de souhait. Les responsables scolaires s'attendent à un résultat acceptable. Lassana Koumaré, directeur par intérim de l'Académie d'enseignement de Gao.
Au niveau du DF, on a 4340 candidats. Certificat d'aptitude professionnelle, 396 candidats. Au niveau du bac, 3313 candidats. BT1, 491 candidats. BT2, nous avons 120 candidats. Mais ces effectifs sont provisoires. Les enfants qui sont dans des zones d'insécurité, qui doivent faire les examens. Nous sommes en train de réfléchir à une alternative où il faut les regrouper dans des centres qui se situent dans des zones beaucoup plus sécurisées.
À Mopti, 4081 candidats sont inscrits cette année au diplôme d'études fondamentales. Ces candidats seront répartis en 34 centres, dont 4 centres d'arabes. Les autorités scolaires rassurent que des dispositions sont prises pour permettre à tous les candidats de bien passer l'examen du DF. Roger Dako, directeur du centre d'animation pédagogique de Mopti.
Nous sommes à peu près à 87% des programmes, mais c'est acceptable. Bon, moi, je suis vraiment confiant.
À Ségou également, tout est fin prêt pour que les examens se passent dans de bonnes conditions. En l'occurrence, le DF nous dit Drissa Traoré, directeur du centre d'animation pédagogique de Ségou.
Le COP de Ségou a environ 6720 candidats, 46 centres d'examen. Les programmes sont exécutés vraiment presque à 100%.
Notons que les épreuves écrites de l'examen du certificat d'aptitude d'études professionnelles, CAP, débuteront le lundi 20 juin.
Je l'annonçais dans les titres, les préparatifs du HAJ 2022 vont bon train. Les 6032 candidats maliens de différentes agences ont démarré lundi dernier une formation sur le pèlerinage à la maison du Hajj à Bamako. Elle prend fin ce mercredi 15 juin 2022, indiquent les organisateurs. Que pensent les futurs pèlerins de cette formation? Où en sommes-nous donc avec l'organisation? Nous en savons plus avec Mamadou Samasekou.
Qu'ils soient de la filière gouvernementale ou celle des privés, les pèlerins semblent satisfaits de cette session de formation.
Je n'ai plus peur vraiment avec tous les renseignements et les informations que nous venons d'avoir lors de la formation.
Moi, c'est ma première fois. Je ne m'attendais pas à m'enquérir autant d'informations autour du Hajj.
Ça a été vraiment une compréhension qui n'a pas été difficile. On apprécie les formateurs. Nous sommes vraiment motivés.
Cette formation sert de complément d'une série de formations tenues en août dernier, affirme Mamadou Sidibé, chef de bureau de formation de la maison du Hajj.
On a fait des sessions de formation à l'intention des pèlerins. Bon, cette formation aujourd'hui, c'est pour sanctionner tout ce que nous avons fait. Ça va permettre aux pèlerins de réviser ce qu'ils ont vu auparavant et les retardataires d'être imprégnés de ce qu'ils doivent faire à la Mecque.
Pour cette année, les candidats prioritaires sont ceux déjà inscrits depuis 2020 et 2021. Les candidats qui n'ont pas eu de place devront attendre 2023, annonce la maison du Hajj. Mamadou Sidibé, chef de bureau de formation de la maison du Hajj.
Les prestations sont augmentées en Arabie Saoudite. Donc évidemment, les pèlerins, ils étaient appelés de compléter. Cette année, on a fixé l'âge à 65 ans. Et avec l'augmentation aussi, il y a d'autres qui n'ont pas pu compléter. Tous ceux qui sont venus après la décision, ils seront obligés d'attendre.
Le premier convoi des pèlerins maliens prendra son vol le lundi 20 juin 2022 pour le Royaume d'Arabie Saoudite, annoncent les responsables de la maison du Hajj.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est la fin de cette édition. La mise en onde a été assurée par Nohom Djiré. Restez à l'écoute dans un instant. La question A. Les autorités en charge du contrôle des eaux au Mali dénoncent l'incivisme des populations en faveur du fleuve Niger face à la situation. Nombreux sont ceux qui se posent des questions sur la qualité de l'eau que nous consommons. Pour les responsables du Laboratoire national des eaux au Mali, l'eau du fleuve Niger est prélevée en amont, au milieu et en aval chaque mois pour évaluer sa qualité. Ils estiment que les eaux embouteillées ou en sachets aussi ne doivent pas être vendus sans être certifiés. Madame Farmata Yaro, directrice du Laboratoire national des eaux au Mali, répond aux questions de Lala Aïcha Wallet Infa.
Nous faisons des missions de suivi de la qualité des eaux de surface. Parce que le laboratoire est représenté à Bamako ici, le Chiez, et il est représenté aussi la région de Mopti, à Kay aussi, dans la ville de Kay.
Aujourd'hui, quelle est la situation de l'eau du fleuve Niger?
Nous avons un programme de suivi mensuel de la qualité des eaux de surface. Bon, pour le moment, nous avons des paramètres qui sont analysés pour définir la qualité de l'eau. Bon, l'eau du fleuve Niger et Sénégal, sur les branches principales ne sont pas troubles et non colorées. Bon, en ce qui concerne la demande chimique en oxygène, en certains endroits où les activités anthropiques sont très développées, je vous avoue que la demande chimique et la demande biologique sont souvent non conformes à la norme. Mais avec le pourcentage d'oxygénation, la capacité d'auto-épuration pour le moment n'est pas détériorée. Mais il faut savoir qu'en certains points, vraiment, le fleuve est agressé.
Comment la population doit se comporter pour que notre eau reste bonne? Toujours.
Les activités anthropiques, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'artisanat, plus l'exploitation minière, surtout de façon incontrôlée, a vraiment des impacts sur la qualité du fleuve.
Comment on peut savoir que l'eau est saine à l'UNI?
À l'UNI, c'est un peu difficile. Peut-être au goût, l'eau peut être dure, le goût salé dans l'eau. Et la vision aussi quand c'est trouble. Mais ça, c'est à l'UNI et c'est subjectif.
Est-ce que vous avez le contrôle sur les eaux dans les bouteilles? À sans eau sachet. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont minérales?
Bon, suivant la réglementation, aucune de ces eaux ne doit être vendue sans être certifiée. À notre dernière sortie, à peu près sur une quarantaine d'échantillons, surtout les eaux de sachet, nous avons trouvé que ces eaux, physiquement, n'ont pas de problème. Chimique aussi n'a pas de problème. Mais souvent, vous trouvez que bactériologiquement, ces eaux ont des problèmes. Mais sur une quarantaine, à peu près 3 à 4% seulement de ces eaux sont non conformes.
Il y a certaines personnes qui préfèrent l'eau du sachet par rapport à l'eau du jar. Quelle est la différence?
Bon, ça, c'est tout simplement hygiénique. Hein. Parce que vous trouvez que les jars chez nous, dans nos ménages, ne sont pas très bien protégés. Sinon, si vraiment les jars sont très bien nettoyés et que l'on change cette eau régulièrement, vraiment, je ne vois pas de problème par rapport aux eaux du jar. Par contre, les eaux de sachet, comme je l'ai dit, il y a des sachets alimentaires et des sachets non alimentaires. Donc, une eau dans un sachet dégradable à la production, elle peut être de bonne qualité. Mais avec le stockage, sur une température de plus de 40 degrés, la qualité peut changer. Parce qu'il y a la contamination contenant continue.